Par le Père, le Fils et le Saint-Esprit, ainsi soit-il, venez, Esprit Saint, remplissez le cœur de vos fidèles, et mets en eux le feu de votre amour. Voyez votre Esprit, Seigneur, se faire une création nouvelle.
Et vous renouvellerez la face de la terre.
Prions. Ô Dieu, qui avez tenu envoyer votre Esprit sur ce monde, donnez-nous par ce même Esprit de comprendre et d'aimer ce qui est bien, de jouir sans cesse ces divines consolations pour le même Jésus-Christ, notre Seigneur. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort.
Nos saints anges gardiens,
veillez sur nous.
Saint Pédis,
priez pour nous.
Saint Joseph,
priez pour nous.
Saint Thomas d'Aquin,
priez pour nous.
Père, le Fils, le Saint-Esprit. Alors, sur le polycopier, on est à la page 33. Oui. On fait tomber la feuille ici. Vous l'avez eu, je vais faire. Paul, madame, vous l'avez eu? Non. Donc, page 33 et 34. Donc, on continue ce beau traité sur la béatitude. Donc, qui est l'introduction à la première partie, la deuxième partie de la somme. Cette première partie, la deuxième partie, contient toute une série de traités qui sont très importants, notamment celui-là, sur la béatitude, et le dernier aussi, sur la grâce. On va voir un peu tout ça. Donc, on a vu que puisque la fin de l'homme, la fin dernière de l'homme est un bien créé, et à savoir Dieu lui-même, donc Dieu seul, par sa bonté infinie, peut combler la volonté de l'homme. C'est-à-dire, la fin dernière étant Dieu, personne ne peut combler parfaitement sa volonté avec quelque chose d'humain. C'est-à-dire, Dieu nous a donné ça comme fin dernière. Il est donc obligé de mettre en nous un système, en quelque sorte un système intellectuel, pour pouvoir arriver à le contempler. C'est le rôle de l'intelligence, éclairé par la grâce, et enfin, finalement, éclairé par la gloire. Donc ce bien est un bien incréé. Toute la folie du monde moderne, justement, consiste à remplacer un bien incréé par un bien créé. C'est-à-dire chasser notre Seigneur Jésus-Christ de notre âme et remplacer par quelque chose de créé. Et la deuxième folie consiste à croire qu'on puisse être heureux en ayant rempli notre âme de bien créé. Et donc, tout le travail, si vous voulez, de la grâce sanctifiante consiste d'une part à éliminer les choses qui encombrent notre âme, d'autre part à comprendre qu'en Dieu seul, on peut arriver à obtenir cette gloire et tout simplement cette paix. Si les gens du monde moderne n'ont jamais la paix, tout simplement, ils n'ont pas la paix parce que, tout simplement, ils n'ont pas en eux ce bien créé. Ils ont remplacé ce bien créé par quelque chose de créé. En quelque sorte, c'est un péché, on peut dire que c'est un péché d'idolâtrie. Quoi. Ils adorent les créatures, ils adorent le créateur. Alors, il est évident que ici-bas, tant que nous sommes sur la terre, il n'est pas possible pour nous d'avoir la béatitude parfaite. Donc, on va avoir une béatitude imparfaite, et la béatitude parfaite ne pouvant être possédée par l'homme ici-bas. C'est pour ça que les anciens disaient, ils avaient une formule spéciale, ils disaient, on ne peut pas voir Dieu sans mourir. Ça voulait dire quoi? Ça voulait dire que pour pouvoir posséder Dieu totalement, il faut tout simplement mourir d'abord. C'est simplement au moment où notre âme va passer du temps à l'éternité, et d'éternité bienheureuse pour ceux qui ont la gloire d'y aller, c'est à ce moment-là seulement que notre âme va en quelque sorte se dilater, de telle façon que notre Seigneur Jésus-Christ puisse prendre totale possession de notre âme. Et c'est la raison pour laquelle on ne peut pas... La première chose qu'on a à faire pour se mettre sur le chemin qui mène au bon Dieu, c'est d'arrêter d'aimer les choses de ce monde. C'est une espèce de système de vase communicant, si vous voulez. Plus un plateau s'élève, plus l'autre va s'abaisser. C'est-à-dire que plus on a des choses matérielles dans notre âme, moins il y a place pour le bon Dieu. Au contraire, plus il y a des choses Plus notre Seigneur Jésus-Christ occupe l'âme, moins il y a de place pour les choses matérielles, et plus notre Seigneur Jésus-Christ restera dans l'âme. Quelque chose que notre Seigneur Jésus-Christ ne peut pas supporter, hein, il l'a dit expressément, il ne peut pas accepter que, si vous voulez, qu'on mette sa gloire au niveau de la gloire humaine. Le pire des pires des crimes, c'est celui-là. Le pire des crimes, c'est vouloir, c'est espérer d'une créature ce qu'on doit attendre que de Dieu seul. Et on voit très bien dans le monde moderne comment le monde moderne va donc remplir notre cœur avec des bêtises, pour être sûr qu'il n'y ait plus de place pour le bien créé. Et c'est la raison pour laquelle certaines conversions, c'est tellement difficile. Parce que pour pouvoir se convertir, qu'est-ce qu'il faut faire au début? Ben, il faut ouvrir la porte de notre âme et commencer à déblayer, quoi. Et ça, c'est pas nécessaire, et ça, j'en veux pas, etc., etc. Alors, les gens paniquent complètement parce qu'ils nous disent, bien sûr, il faut tout enlever. Qu'est-ce qui va nous rester? Alors, c'est comme le gars qui est dans sa maison, et puis il voit quelqu'un qui est venu inspecter la maison, puis il a ouvert la fenêtre, et puis il balance dehors. Il est comme ça, il regarde, mais qu'est-ce qui va me rester? Plus rien. Ben non, c'est l'inverse, parce qu'une fois que l'appartement est vide, que la maison est vide, à ce moment-là, et à ce moment-là seulement, le bon Dieu peut justement prendre possession de son être, de notre âme. Il ne peut pas prendre possession d'une âme qui est empêtrée avec quelque chose de matériel. Donc la première condition pour suivre notre Seigneur Jésus-Christ, c'est de détacher les biens de ce monde. Là, il y a un texte magnifique de saint Thomas, donc au 1, 2, 3, 4, 5e paragraphe de la page 33. La béatitude de l'homme consiste essentiellement donc dans son union avec le bien créé, qui est sa fin ultime. Et ce bien-là, l'homme ne peut être uni par une activité des sens. C'est-à-dire que non seulement Dieu, en tant que bien créé, se donne à nous, mais il nous donne un moyen d'arriver à atteindre ce bien créé. Et voilà ce que dit saint Thomas, la béatitude est la joie de la vérité. C'est une phrase splendide, ça. La béatitude est la joie de la vérité. La seule joie, la seule paix, c'est la vérité. Donc les gens cherchent la joie, cherchent la paix, cherchent toutes les choses du monde moderne dans les choses matérielles. Ils sont incapables absolument de donner quoi que ce soit, alors qu'il faut aller chercher la joie et la paix dans notre Seigneur Jésus-Christ. C'est pour cela que les premiers fruits du Saint-Esprit, avec la charité qui est l'amour du bon Dieu, c'est quoi? C'est la paix et la joie. Charité, paix, joie, c'est Galates chapitre 5. Donc c'est une chose importante, et on a beaucoup de mal à expliquer ça aux gens, parce que les gens pensent que servir notre Seigneur Jésus-Christ, ça veut dire faire une tête de 6 pieds de long, et puis manger une patate pourrie tous les 3 jours, et puis porter une longue robe qui va jusqu'au cou au dos de pied, et puis se flageller tous les jours jusqu'à ce que le sang passe sous la porte, etc. Bon, et ils n'ont rien compris que c'est pas du tout ça. Lorsque quelqu'un est canonisé, il n'est pas canonisé à cause de ses pénitences. Il est canonisé parce qu'il a pratiqué l'héroïcité des vertus, pas pareil. Donc vous avez des grands saints qui extérieurement n'ont pas fait d'énormes pénitences. Mais ils ont ouvert la porte de leur âme au bon Dieu, et ils ont dit au bon Dieu, mon Dieu, faites comme je vous dis, vous rentrez, vous faites ce que vous voulez, vous me nettoyez la maison comme vous voulez, vous ouvrez la fenêtre, vous envoyez par la fenêtre les choses qui ne vous plaisent pas, et vous gardez là-dedans que ce qui vous plaît. Et à ce moment-là, c'est ça qui donne la joie. La joie et la paix, c'est ça. Alors les gens du monde moderne, ils veulent absolument cette joie et cette paix, parce que c'est quelque chose, je dirais, qui est inné pour un homme. L'homme veut la paix, veut la joie. Et donc, comme ils ne peuvent pas la trouver en bon Dieu, parce qu'ils n'ont pas le bon Dieu, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont aller chercher ailleurs. Alors, ils vont se lancer dans la drogue, ils vont se lancer dans l'alcool, ils vont se lancer dans toute une série de choses, croyant obtenir la joie et la paix de ces gens-là, de ces choses-là, de ces choses matérielles-là. La béatitude est donc la joie de la vérité, mais la faculté la plus élevée de l'homme est l'intelligence, son intellect. Et son objet le plus élevé, le bien divin, objet de l'intellect spéculatif, non l'intellect pratique. C'est donc dans une activité de ce genre, dans la contemplation du divin, que consiste la béatitude. Donc la béatitude, la définition de saint Thomas qui est magnifique, la béatitude, c'est la contemplation du divin. C'est-à-dire se mettre littéralement presque au niveau de Dieu pour pouvoir contempler la divinité de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est en soi un mystère insondable. Comment est-il possible pour une âme finie de contempler un être infini? C'est tout le mystère. Comment est-il possible pour notre Seigneur Jésus-Christ, c'est le même mystère que vous êtes dans la Sainte Eucharistie, comment notre Seigneur Jésus-Christ, vrai Dieu et vrai homme, donc infini de par sa divinité, peut-il être contenu dans la Sainte Eucharistie? C'est aussi toute l'image magnifique du mystère de l'incarnation. Comment la très sainte Vierge Marie a-t-elle pu recevoir en son sein le Créateur du ciel et de la terre? Le Créateur du ciel et de la terre qui accepte de s'abaisser jusqu'à devenir prisonnier pendant 9 mois dans le sein de sa mère, ou qui accepte de se cacher derrière les apparences d'une hostie de pain. Voyez. Donc, rappelez-vous bien cette définition qui semble importante. La contemplation du divin, c'est la béatitude. Donc, le seul moment, la seule façon pour nous d'être infiniment heureux, c'est d'avoir la possibilité de contempler la divinité sans obstacle. Ici, on n'arrive pas à être parfaitement heureux. Pourquoi? Parce qu'il y a toujours des obstacles. Et ce que c'est des obstacles matériels, on ne peut pas matériellement passer 24 heures par jour dans le Saint-Sacrement. Et donc, il y a toujours quelque chose qui résiste en nous. C'est toute la magnifique lettre de Saint Paul. Il explique bien qu'il dit, je sens en moi quelque chose qui s'oppose à ma volonté. Je fais ce que je ne voudrais pas faire et je ne fais pas ce que je voudrais faire. Donc il y a un combat terrible dans Saint Paul, qu'on voit très bien l'épître de dimanche prochain. Un combat terrible dans Saint Paul. Et Saint Paul voudrait avoir une solution, voudrait avoir quelque chose pour pouvoir lutter contre ce qui est un obstacle à cette contemplation de la divinité en lui. Donc il voudrait trouver quelque chose pour justement arrêter ces obstacles, enlever ces obstacles. Donc il va demander au bon Dieu, mais enlevez-moi ces obstacles. C'était quoi les obstacles de Saint Paul?
Sur l'aiguillon.
Il y a un aiguillon dans la chair, ça veut dire ça. Les personnes se demandaient, qu'est-ce que ça veut dire, aiguillon dans la chair? Par délicatesse, Saint Paul n'a pas expliqué. Les pères ne sont pas plus d'accord pour savoir quel aiguillon de la chair ça voulait dire. Vraisemblablement une grosse tentation d'impureté, on ne sait pas. En tout cas, quelque chose qui devait bien l'humilier. Et on pourrait croire qu'il y a quelqu'un, le niveau de sainteté d'un Saint Paul, mais pas que Saint Paul est au niveau de Saint Pierre, hein, puisqu'on ne sépare pas Saint Pierre et Saint Paul dans les oraisons. Chaque fois qu'il y a une fête de Saint Pierre, il y a l'oraison de Saint Paul. Et chaque fois qu'il y a une fête de Saint Paul, il y a l'oraison de Saint Pierre. Hein? Donc Saint-Pierre et Saint-Paul sont les deux piliers de l'Église. Et bien malgré le fait que Saint-Paul était un grand, grand géant de sainteté, quelle réponse notre Seigneur? Ma grâce te suffit. Alors si notre Seigneur, si Saint-Paul, qui a un degré de sainteté énorme, n'a pas pu obtenir ce qu'il cherchait de la part du bon Dieu, qu'est-ce qu'on fait dans nous? Alors, si Saint Paul n'a pas obtenu ce qu'il voulait, alors il faut peut-être que ça me maintienne dans l'humilité. Souvent, les gens viennent me voir, monsieur l'abbé, j'ai fait telle nouvelle, et telle nouvelle, et telle nouvelle, et telle nouvelle, et j'ai demandé tel truc, et ça vient pas. Qu'est-ce qu'il fait, le bon Dieu? Il m'oublie. Ah non, il n'a pas voulu donner ça à Saint Paul. Alors, s'il n'a pas voulu donner ça à Saint Paul, il n'est pas obligé de nous le donner. Et ça, c'est très important, parce que ça bloque complètement la vie spirituelle de beaucoup de gens, parce qu'ils considèrent ça comme un dû. Je prie. Voilà. Donc, vous devez me donner ça. Attendez, Dieu est libre. Il y a des saints qui ont passé toute leur vie en désolation un peu complète. Certaines désolations, par exemple, Saint-Vincent de Paul, Saint-François de Sales, de Sainte-Thérèse de l'Enfant Jésus, mais ça laisse rêveur. Vous avez un des pires, c'est Saint-Pierre Chanel. Saint-Pierre-Chanel, moi j'ai un peu dit Saint-Pierre-Chanel parce que c'était le patron de l'Océanie, j'étais missionnaire en Océanie pendant longtemps. Saint-Pierre-Chanel, il a été envoyé par ses supérieurs, j'étais père depuis que plus, quoi, si je me souviens, c'était exact. Il était envoyé par ses supérieurs, Wallis et Futuna, bon, deux petites îles, vraiment perdues en plein Pacifique. Et il a prêché, il n'a pas eu un baptême d'adulte, pas une conversion pendant les années qu'il a passé là-bas. Il a fait des pénitences invraisemblables et puis il n'y a rien qui marchait. C'est juste que ces personnes qu'il a pu baptiser, c'était des enfants qui mouraient à la naissance. Il a pu les baptiser en catimini. Donc il a demandé, redemandé. Imaginez, mettez-vous à la place d'un missionnaire pareil qui est complètement isolé comme ça. Il fait des sacrifices énormes pour venir là. Il a tout abandonné la vie en France avec les facilités de la vie en France. Il va dans des pays impossibles. Et puis il demande, et qu'est-ce que j'ai pour votre Seigneur? Rien. Pas un copec. Hein. Il n'a même pas eu la consolation d'un début de conversion, rien du tout. Et puis, qui plus est, il est mort. C'est quand même martyr, mais il est mort assassiné par deux Indiens qui avaient bu un coup de trop. Bon, mais comme il a assassiné comme il était prêtre, il est mort, il est quand même martyr. Donc Saint-Pierre Chanel meurt. assassiné par ces deux Indiens. À ce moment-là, les catholiques qui étaient là-bas, enfin les catholiques, les insulaires, ont quand même fait prévenir le supérieur que ben, il venait d'assassiner le prêtre. Ils ont peut-être pensé en envoyer un autre pour qu'ils aient quelqu'un d'autre à assassiner. Et puis, donc ils ont envoyé un successeur, et le successeur est à peine arrivé, toute l'île a demandé le baptême. Bon, le sang des martyrs est une source de chrétienté. Eh bien, mais par contre, Saint-Pierre Chanel, ben, lui, il n'a rien eu. Rien eu du tout. Rien du tout. Mais, la petite histoire, les sœurs de Donzy, là où est mon frère, les sœurs de Donzy sont le bâtiment lié à la famille Chanel. C'est appartenu à la famille de Saint-Pierre Chanel. Bon, donc, c'est ça qu'il faut comprendre. Donc, on a trop tendance à exiger des choses du bon Dieu. Comme si on était au même niveau que lui, donnant. Je prie, mais je dois ça, je dois avoir ça. Et bien vite, s'il vous plaît, et bien rapidement. J'ai pas de temps à perdre. Et donc, pratiquement, on exige du bon Dieu, on lui parle comme si c'était à notre niveau. Bon, bref, voilà, je fais ça pour toi, tu fais ça pour moi. Mais attendez, Dieu n'est pas tenu de répondre à nos prières tout de suite. Et Dieu n'est pas tenu de répondre à nos prières, point barre. Il peut, dans certains cas, nous faire porter. Il y a ses raisons, qui ne sont pas les nôtres, qu'on ne veut pas comprendre. Mais les saints étaient comme ça, c'est-à-dire qu'ils n'avaient peut-être pas de réponse matérielle à leur demande matérielle, mais ils avaient cette béatitude qui consistait en la contemplation du divin. C'est-à-dire que même sans avoir aucun... C'est facile de prier quand on a des consolations. Mais quand on voit des gens, des saints qui ont prié pendant 10, 20, 30, 40 ans sans un gramme de consolation, bien sûr, il faut le faire. Nous, quand on a une méditation sans consolation qui dure une demi-heure, déjà on fait la gueule au bon Dieu en disant quand même, mince, vous avez pu vous occuper un peu de moi. Bon, eh bien, imaginez des saints qui ont passé 10, 20, 30, 40 ans en consolation, sans cause aucune consolation, rien du tout. Eh bien, ils ont continué. Puis imaginez un petit peu aussi les moqueries auxquelles ils étaient confrontés. Parce que, en face, ils ont dit, mais alors, votre Dieu, qu'est-ce qu'il fait? Vous nous annoncez un Dieu qui s'est fait chair, un Dieu qui est mort pour nous sur la croix, il paraît, mais qu'est-ce qu'il fait? Rien. On voit un peu la même chose dans la vie de Clovis et de Sainte Clotilde. Donc, Clotilde avait déjà eu un premier enfant avec Clovis. Et Clovis accepte le baptême du petit, alors qu'il n'était pas encore catholique, sa femme était une sainte, Sainte Clotilde, il accepte le baptême, on baptise l'enfant, et l'enfant meurt. Et Clovis, il a mal pris. Il a accusé sa femme, il dit, il est mort à cause du baptême. C'est le baptême qui a tué mon fils, logique. Et puis, et si mes souvenirs, il que je vérifie, si mes souvenirs sont exacts, je crois qu'il est le bon Dieu, a fait deux fois le coup. Ouais, deuxième pareil. Et tu veux vous dire que on pourrait se dire, mais enfin, qu'est-ce qu'il fait le bon Dieu, enfin mince, pourquoi il n'écoute pas les prières de Sainte Clotilde? C'est là qu'il faut comprendre. Les voies de Dieu ne sont pas les nôtres, les mystères de Dieu ne sont pas les nôtres. Et on n'a pas à poser des questions, des conditions au bon Dieu. C'est un petit peu ce qu'on fait dans la prière moderne. On veut bien prier à condition de sentir quelque chose. On veut bien faire des méditations à condition de sentir quelque chose. Il faut qu'on ait au fond de nous-mêmes une consolation extraordinaire, une consolation purement sensible. Mais parfois, le bon Dieu permet qu'on reste dans la désolation pendant très longtemps, à tel point qu'on appelle ça, j'ai expliqué, la nuit des sens. Et non seulement au début, il purifie des choses sensibles, c'est quoi la nuit des sens? On dit que la nuit des sens, c'est le passage de la vie, la voie purgative à la voie illuminative. La nuit des sens, c'est-à-dire que Dieu... Au début, on suit notre Seigneur Jésus-Christ à cause d'un réconfort sensible. Il y a des gens qui prient comme ça. Moi, je vois très bien, par exemple, des conversions, des belles conversions, les gens me disent, observez, devant ça, c'est magnifique, oh, c'est extraordinaire. J'entends les petits anges qui chantent et tout, et puis la Sainte Vierge Marie m'écoute, oh, c'est magnifique. Et puis, au début, bon, Dieu donne des grâces sensibles de ce genre. Au bout d'un certain temps, il coupe le robinet. Il coupe le robinet, et puis ce qu'on appelle la nuit des sens. La nuit des sens, c'est quoi? Plus aucune consolation sensible. Il reste encore la consolation intellectuelle. Je sais, par ma foi, que notre Seigneur Jésus-Christ est vraiment présent avec son corps, son sang, son âme et sa divinité sous l'apparence du pain et du vin dans le tabernacle. Bon. Mais sensiblement, je ne sens plus rien. Eh bien, après ça dure un certain temps. Ensuite, le bon Dieu rend de nouveau des grâces qui peuvent être palpables en quelque sorte. Et puis, au passage supérieur, c'est le passage de la voie illuminative à la voie initiative, là, c'est la nuit de l'esprit. Non seulement il n'y a plus rien au niveau des sens, mais il n'y a même plus rien au niveau intellectuel. C'est-à-dire que la personne se dit, non seulement elle sent rien, mais en plus, elle essaie de faire l'acte de foi. Je crois fermement que notre Seigneur Jésus-Christ est vraiment présent avec son corps, son sang, son âme et sa divinité. Plus rien. C'est un mot complètement vide. Et c'est pour ça que tous ceux qui sont passés par ce qu'on appelle la nuit des sens, la nuit de l'esprit, disent que c'est une purification épouvantable. Et on voit les grands saints qui sont passés par là. Hein. Non, je ne peux pas passer par là. J'ai encore au début, moi. Mais peut-être qu'il ne faut pas chercher toujours à avoir des consolations sensibles. Il y a beaucoup de gens qui sont comme ça. Ils sont prêts à faire des tas de choses pour notre Seigneur Jésus-Christ, pour le bon Dieu, c'est tout à fait d'accord. Ils veulent bien faire des tas de choses pour le bon Dieu, mais à condition qu'il y ait une récompense immédiate ici-bas. Et en fait, ce que le bon Dieu essaie de nous faire comprendre, c'est que la récompense, elle n'est pas ici-bas. Les docteurs vont même jusqu'à dire malheur à vous si les récompenses ici-bas. Parce que le bon Dieu qui a promis qu'il ne laisserait pas un verre d'eau donner à un pauvre sa récompense, il récompense ici-bas les gens qu'il ne peut pas récompenser après. Donc quand des gens, ça c'est quelque chose qu'on avait très souvent aux États-Unis, avec la notion protestante de la prière et de la grâce qui est complètement faussée. Des gens, l'Américain moyen, qu'est-ce qu'il disait? L'Américain imprimé protestantisme disait: le bon Dieu est avec nous, regardez tout l'argent qu'on a. Regardez nos magasins sont pleins. Regardez toutes les facilités matérielles que nous avons aux États-Unis. C'est Eldorado ici, donc Dieu est avec nous. Et les catholiques devaient dire, on a tout ça, malheur à nous. Parce que justement, on a ici-bas des récompenses, parce que le bon Dieu sait qu'il ne veut pas nous récompenser après. Et donc c'était absolument indispensable, encore plus là-bas, de faire comprendre à nos fidèles, justement, de ne pas rentrer dans le système, de chercher Dieu ici-bas. Chercher les consolations sensibles ici-bas, ou même les consolations intellectuelles ici-bas. Et donc, le bon Dieu, dans certains cas, ben, enlève toutes ces consolations pour purifier l'âme. Et l'âme reste un peu toute bête. C'est devant le bon Dieu, c'est un peu la méditation, j'appelle ça la méditation de la bûche. Bon, c'est une bûche devant le bon Dieu, ben voilà, je suis là. Bon, ben, j'ai pas envie d'être là, vraiment pas envie d'être là, non. Puis qu'est-ce que j'ai à dire? Rien, parce que j'ai pas quoi dire. Et puis, en plus, je m'écoutais pas. Alors, qu'est-ce que je fais là? J'en sais rien. Écoutez, mon Dieu, ça fait rien. Bon, moi, j'essaie d'être une bonne bûche. Hein, c'est Sainte Bernadette, un bel exemple que j'aime beaucoup pour expliquer ces choses-là. Elle dit bien que ce qu'il faut, c'est de l'art. Tout. Le bon Dieu, il vous demande d'être une bûche. Eh bien, c'est une bonne bûche. Et je fais quoi? Rien. Ça fait rien. Vous êtes là. C'est ce qu'il vous demande. Et Sainte Bernadette explique, l'âme est comme un balai. Donc le balai, il est dans un placard à balai. Un placard à balai, c'est pas maison, c'est noir, c'est crasseux, c'est la poussière, les araignées partout, les toiles d'araignée et tout et tout. Et puis on est là, on dit, oh, qu'est-ce que je fiche, attends, à quoi je sers? Enfin, je pense que je suis un beau balai qui fait bien son boulot, quelqu'un pourrait m'utiliser pour balayer toute la maison, je peux faire un travail de nettoyage incroyable, qu'est-ce que je fais là? Rien. Oui, mais ça m'avait dit, oui, mais un bon moment, sans prévenir, le bon Dieu va ouvrir le placard, parce qu'il y a besoin d'un balai. Il va prendre le balai. Qu'est-ce qu'il vous demande d'être là, c'est tout. Alors tu comprends, tu disais, bah, bon Dieu, je souhaite la chair à quelque chose, comme je fais un beau travail de nettoyage. Mon Dieu commence à nettoyer avec le balai. Ah, tu es content, puis après, il me remet dans le placard à balai, ferme la porte et vous trouvez les araignées, les étoiles d'araignées et la poussière. On dit, oh, quand même, pourquoi le bon Dieu m'aime plus? Qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu? Pourquoi il m'a abandonné? Pourquoi je n'ai pas mérité ça? Qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu pour mériter ça? Mais pas forcément, vous êtes pas forcément dû à une erreur personnelle, c'est simplement que le bon Dieu purifie notre attention. Et c'est là, c'est pour ça que j'aime beaucoup ces définitions. La contemplation, la béatitude, c'est la contemplation du divin. Et qu'on a besoin d'avoir des consolations extraordinaires pour contempler le divin, non? Justement, c'est ça le paradis. Le paradis, c'est pouvoir contempler le divin sans obstacle. On est sûr au paradis qu'il n'y aura plus de nuit d'essence, plus de nuit d'intelligence, plus rien. On est en Dieu, immergé dans le bon Dieu. Et puis on est comme un soleil, on est devant le bon Dieu, et puis c'est tout. Quoi. C'est pour ça que tous les saints qui ont des visions du ciel disent la même chose. Et on ne peut pas expliquer. Et les saints qui ont eu, Saint Paul a eu des visions extraordinaires du ciel, il le dit expressément, et il dit les mots n'existent pas pour expliquer ce que j'ai vu. Vous voyez? Vous avez des tas de saints, bien pas qu'un, beaucoup de saints ont fait des petits séjours au ciel. Le bon Dieu a permis qu'ils voient une partie de la gloire du ciel. Et quand on leur a demandé, m'a expliqué, ils sont sans voix, ils ne peuvent pas expliquer. Vous voyez. Donc, ce qu'il faut, c'est garder donc en nous cette joie de la vérité, cette joie et cette paix de la vérité qui vient de la contemplation du divin. Et ensuite, Saint-Sébastien va rentrer un peu dans c'est le paragraphe suivant, donc à la page 33 du paragraphe 33. Donc, par la vie contemplative, l'homme entre en communication avec ce qu'il dépasse, avec Dieu et les anges auxquels il est assimilé par la béatitude. L'ultime et parfaite béatitude qui nous est promise dans la vie future consiste tout entière dans la contemplation comme dans son principe. Donc la contemplation du divin consiste à ouvrir la porte de notre âme de façon que notre Seigneur Jésus-Christ puisse y rentrer sans obstacle. Et donc évidemment, le grand obstacle à la contemplation du divin, c'est quoi? La volonté propre. Donc il reste une once de volonté propre en nous, ben, le bon Dieu ne peut pas nous donner le don de la contemplation. Le don de la contemplation peut être donné à quelqu'un qui a complètement perdu sa volonté propre. Et c'est la parfaite béatitude. C'est pour ça que la béatitude qu'on peut avoir ici-bas n'est qu'une participation à la béatitude éternelle. C'est une participation à la béatitude parfaite. C'est donc une participation à quelque chose qu'on ne peut pas contempler ici-bas. C'est absolument, absolument impossible. Et donc, le plus important, c'est la contemplation. C'est pour ça que Saint Ignace, avec raison, dans les exercices Saint Ignace, insiste tant sur l'esprit d'oraison, l'esprit de contemplation. Et souvent, j'ai remarqué les gens qui ont du mal avec la contemplation veulent remplacer la contemplation par des prières vocales. Donc, en quelque sorte, ils rajoutent prières vocales et prières vocales et prières vocales et prières vocales. Mais ici, il manque l'esprit de contemplation, il manque l'essentiel. C'est une énorme difficulté qu'on avait aux États-Unis parce que les gens sont comme ça là-bas, toutes leurs qualités qui sont énormes. Ils ne comprenaient que la prière vocale, incapables de comprendre la prière mentale pour la plupart d'entre eux au moins. Et par exemple, si je disais, bon, demain, de 11h à minuit, on va en faire une neuvaine de prière à Sainte-Philomena ou je ne sais pas trop qui, tout le monde venait. Puis on va dire 15 chapelets devant la rue, tout le monde venait, et puis prier. Et puis, quand le siège de la demande, bon, on aura une heure sainte de silence et d'adoration entre le Seigneur, personne ne venait. Je rappelle mon premier poste quand j'étais à l'Étoile du Matin, c'était comme ça. L'Étoile du Matin, près de Haguenau, près de Toulouse, près de Strasbourg, pardon, eh bien, on avait des nuits de prière. Des prières une fois par mois pour le premier vendredi du mois. J'écoute pratiquement que des Allemands. Donc, une piété un peu envahissante, mais très belle d'un certain côté. Donc, ils arrivaient à 8h du soir et ils faisaient toute la nuit jusqu'à 8h du matin. Ils ne s'arrêtaient pas. Et donc, quand on est arrivé, c'était Jacques Lagré qui était derrière moi, c'était Jacques Lagré des supérieurs. Donc, on a eu des 16 heures saintes. Les 16 heures saintes, c'est 8 prières, mais il n'y avait pas une seule seconde de silence. Ils n'arrêtaient pas pendant 12 heures. De 8h du soir à 8h du matin. C'est des prières sans cesse, c'est toujours à haute voix. Et on a eu un mal fou à dire, est-ce qu'on pourrait avoir un peu de silence de temps en temps? Ils étaient complètement fatigués parce qu'ils se maintenaient éveillés en chantant, mais ils ont des très beaux chants en plus, et sur le monde, c'est très beau. Donc ils chantaient, après on finit, hop, on entraîne tout de suite, on enchaîne immédiatement avec un chapelet, quelque chose comme ça, mais il n'y avait pas de prière mentale. Et en fait, Philippe Lagré, il y avait une histoire comme ça avec un groupe d'Allemands, donc on lui avait demandé de faire un pèlerinage pour je ne sais plus trop où, donc il est dans le car. Il y a toute une route de nuit, il y avait 10 heures, 12 heures de conduite de nuit pour arriver au lieu de pèlerinage. Alors bon, ils sont partis à 8 heures du soir, alors on se levait, parce que le prix menait les prières. Bon, il commençait à mener la prière, et puis donc il a mené la prière, les chapelets, et puis puis au bout d'une heure comme ça, il dit, bon, ben maintenant, on va garder un peu le silence pour que ceux qui veulent dormir puissent dormir. Et il remoue un remue-ménage dans le cas, et puis une grosse voix qui a dit, vous n'avez pas pu prier une heure avec moi? Donc il s'est enfoncé dans son fauteuil. Il m'a dit, eux, ils ont compris, ils ont pris ça, et puis ils ont prié toute la nuit. Ils n'ont pas arrêté. Pas une seule seconde de silence dans le car, parce qu'ils ont prié, puis ils sont arrivés, ils ont continué ça, évidemment, au pèlerinage, c'est les pèlerinages de l'Allemagne. Bon, c'est beau d'un certain côté, mais vous voyez, je pense qu'il faut arriver à faire comprendre à nos fidèles que la prière vocale n'est qu'une introduction à la prière mentale. Ce n'est pas la prière mentale qui est secondaire par rapport à la prière vocale, c'est la prière vocale qui monte à la prière mentale. Et plus une âme est proche de Dieu, moins la prière vocale et plus la prière mentale. C'est pour ça qu'au ciel, si vous voulez, la béatitude de Dieu est telle qu'on n'aura même plus besoin de dire quoi que ce soit. Et si on a encore besoin de dire des choses, ne serait-ce parce qu'à cause de nos limites humaines. D'accord ? Maintenant, continuons un petit peu ce texte magnifique de saint Thomas. Donc l'unique et parfaite béatitude qui nous est promise consiste tout entière dans la contemplation comme dans son principe, de façon imparfaite ici-bas pour arriver à la contemplation parfaite au ciel. Quant à la béatitude imparfaite, c'est d'ici-bas, elle consiste d'abord et principalement dans la contemplation, d'accord ? Mais aussi secondement dans l'opération de l'intellect pratique dirigeant les actions et les passions humaines. L'homme vise un bien qui est en dehors de lui. Mais l'intellect spéculatif porte son bien à lui-même par la contemplation de la vérité. Il n'y a pas la contemplation de la vérité, on fait rentrer dans notre âme quelque chose qui est ultime. Puisque la fin ultime de l'homme est un bien différent et extrinsèque, à savoir Dieu-même, que nous atteignons par l'activité de l'intellect spéculatif, il en résulte que la béatitude de l'homme consiste davantage dans l'opération de l'intellect spéculatif que dans celle de l'intellect pratique. Bon, c'est des phrases un peu très philosophiques, mais c'est ça. C'est-à-dire que dans notre intelligence, il y a une partie pratique et une partie spéculative. Et on a tendance à faire primer le pratique sur le spéculatif. Et c'est pour ça qu'on a du mal à contempler. La contemplation, c'est la primauté du spéculatif sur le pratique. Le monde moderne meurt parce que justement, c'est le professeur Jérémie qui disait ça, le monde meurt parce qu'on n'y a plus personne qui sait méditer. Et une âme méditative, une âme de raison, une âme d'adoration, c'est des âmes qui utilisent leur intelligence, mais pour monter au spéculatif. C'était Sainte Thérèse d'Avila. Bon, elle disait Notre Père qui est aux cieux, puis partait en adoration. Décoller du sol ou presque, parce que Notre Père. Bon, et puis elle partait, être capable de méditer pendant des heures. Moi je dis Notre Père qui est aux cieux, bon, d'accord, et la suite. Et puis. Nous continuons les prières, parce qu'on a besoin d'un minimum de substance pour nourrir intellectuellement, substantiellement notre âme. Et puis les saints, ils sont encore à premier mot, parce qu'ils n'ont pas encore fini en méditation, ils auront fini en 3-4 mois, le premier mot de la méditation. Et nous, on a déjà fini la prière, plus toutes les prières qui suivent. Et c'est ça, il faut apprendre, il faut demander cette grâce de savoir utiliser l'intellect spéculatif, d'utiliser l'intellect spéculatif avant l'intellect pratique. L'étude des sciences spéculatives rend une certaine participation de la vraie et parfaite béatitude. C'est pour ça qu'en philosophie, le plus haut traité de la philosophie, c'est la métaphysique. La métaphysique, justement, qui élève aux sources mêmes de la divinité. La métaphysique, c'est une philosophie, donc c'est la raison. C'est la raison, c'est le plus haut travail de la raison. Au-delà, quand on arrive au sommet de la métaphysique, là on tombe dans la théologie. Il n'y a pas besoin d'être catholique pour faire la philosophie, strictement. Un païen peut faire la philosophie. Parce que la philosophie, c'est quoi ? C'est l'usage, la lumière de la raison. Et donc, n'oubliez pas que le plus grand philosophe de l'histoire, c'est un païen, Aristote. Bon, et saint Thomas n'a fait que reprendre Aristote et purifier la philosophie d'Aristote. Et donc, lorsqu'on peut commencer par les philosophies, la philosophie mène logiquement à la théologie et l'amour du bon Dieu. Et c'est le drame actuellement, c'est qu'ils n'ont plus de philo. Donc comme ils n'ont plus de philo, ils sont incapables de comprendre la théologie. Et donc ils veulent remplir leurs âmes avec quelque chose de matériel, comme ils n'ont plus de spirituel du tout, ils remplissent avec le matériel, ils pensent que plus ils remplissent avec le matériel, plus ils auront des facilités, c'est le contraire. Plus notre âme est remplie de choses matérielles, moins elle est préparée à monter vers le bon Dieu. Plus on remplit les âmes et des choses matérielles, plus le bateau s'enfonce. Comment voulez-vous qu'il navigue parce qu'il est trop lourd? Donc au contraire, si on libère les cales, toutes ces choses matérielles, à ce moment-là, le bateau remonte, à ce moment-là, il peut avancer. Et donc là, il conclut, la conclusion splendide. La gloire suprême, c'est pour ça que je l'ai mis en caractère gras, la gloire suprême, la béatitude de l'homme, ne consiste que dans la connaissance de Dieu. Donc plus on aime, plus on connaît. Rappelez-vous la formule de Sainte Thérèse d'Avila, mon doux sauveur n'est pas aimé parce que mon doux sauveur n'est pas connu. Donc plus on connaît notre Seigneur Jésus-Christ, plus on aime. Et donc comment on connaît notre Seigneur Jésus-Christ? On connaît notre Seigneur Jésus-Christ ici-bas par la contemplation. C'est la contemplation qui nous amène à ce moment-là au niveau supérieur. Donc la différence de béatitude, la différence de béatitude de parfaite à imparfaite, ou d'imparfaite à parfaite, dépend donc du degré de contemplation et de l'amplitude de la contemplation qu'on a ici-bas. Ici-bas, on ne peut pas avoir une contemplation parfaite. Pourquoi ? Parce qu'on a un corps. Le corps, c'est un frein. Le corps nous empêche de voler comme on voudrait voler. Et donc, il faut attendre d'être séparé de ce corps pour, à ce moment-là, pouvoir vraiment aimer Dieu et contempler Dieu comme on doit le faire. Et lorsqu'on récupère notre corps à la fin des temps, parce qu'il y a la résurrection générale, ce corps sera un corps glorieux, ne sera plus un frein. C'est pour cela que lorsque Sainte Marie-Madeleine voit notre Seigneur après la résurrection, elle se précipite à ses pieds, et notre Seigneur lui dit, non, ne me touche pas. Ne me touche pas, ça veut dire quoi? Ne me touche pas, ça veut dire quoi? Il met ses deux doigts comme ça sur le front de Sainte Marie-Madeleine qui est à ses pieds, ne me touche pas, non, il m'est injuré, ne me touche pas, pourquoi? Parce que tu n'es pas encore capable de me posséder, tu veux me posséder ici-bas, c'est pas encore possible. Et la contemplation, c'est ça, la gloire suprême de l'homme, c'est la connaissance de Dieu. Ici, connaissance limitée, au ciel, connaissance illimitée. Ensuite, il explique, donc, il y a des parties très philosophiques dans ce traité, mais c'est splendide, donc je simplifie un petit peu. Donc, la parfaite béatitude de paragraphe avant la fin de la page 33, ce qu'il dit, la parfaite béatitude de l'homme ne consiste pas dans ce qui est la perfection de l'intellect, selon qu'il participe de notre être, mais bien dans ce qui est tel, dans son essence même. L'objet propre de l'intellect, c'est le vrai. C'est-à-dire, Dieu nous a donné une puissance dans notre âme capable de l'atteindre. Capable d'atteindre Dieu. C'est-à-dire, nous sommes des créatures, et Dieu a mis dans ces créatures quelque chose de suffisamment grand pour atteindre l'infinie béatitude de Dieu. C'est l'intelligence. L'intelligence, c'est comme, si vous voulez, un entonnoir en quelque sorte qui est très petit au début puis qui s'écarte. Et donc plus on utilise notre intelligence dans le bon sens, au début on n'a qu'une toute petite connaissance de Dieu, et plus on fait rentrer notre intelligence dans la voie que le bon Dieu a préparée pour nous, plus cette intelligence s'écarte pour contempler Dieu de plus en plus. Pour ça les grands saints avaient un usage de leur intelligence extraordinaire qui n'était pas un usage d'intelligence comme on le voit ici-bas. Quelqu'un comme le Saint-Curé d'Ars, ce n'était pas quelqu'un intellectuellement très supérieurement intelligent, mais ils avaient cette contemplation, ils avaient cette contemplation extraordinaire, et ils avaient compris des tas de choses que les gens qui avaient fait des hautes études étaient incapables de comprendre. Voyez, et c'est là où il faut vraiment se rappeler ça. J'ai en mon, dans mon âme quelque chose, si vous voulez, une puissance de mon âme qui est capable de connaître le vrai. C'est pour ça qu'on dit que l'objet de notre intellect, c'est le vrai. Le vrai avec un grand V. Le vrai, c'est Dieu. La vérité, c'est Dieu. N'oubliez pas que c'est lui qui a dit « Je suis la voie, la vérité, la vie. » Donc voilà ce qu'il dit. « Ainsi, l'objet qui ne représente qu'une vérité participée ne peut, quand on le contemple, perfectionner l'intellect en lui donnant sa perfection ultime. Dieu seul est la vérité par essence et que sa contemplation rend parfaitement heureux. » Et donc le grand mensonge du monde moderne, c'est de faire croire qu'on puisse trouver la joie, la vraie paix, la vraie joie avec des choses matérielles. Et donc comme ils savent qu'ils ont perdu le spirituel, donc ils remplacent ça par des choses matérielles. Et Saint Thomas qui dit ailleurs, qui dit que de même que trop de bois éteint le feu, de la même façon, trop de choses matérielles dans une âme finissent par détruire complètement l'essence même de l'âme. Alors, Dieu seul donc est la vérité par essence, et c'est que cette contemplation, Dieu seul est la vérité par essence, c'est une faute là. Dieu seul est la vérité par essence, et sa contemplation, je vais supprimer ça, et sa contemplation rend parfaitement heureux. Donc l'ultime perfection de l'intellect humain n'est obtenue que par l'union à Dieu. La béatitude ultime et parfaite ne peut être que dans la vision de l'essence divine. C'est ça qui avait compris ça. C'est au moment où on sent dans la vision de l'essence divine, le paradis, c'est le passage à la vision. On approche de divinité, mais on ne peut pas encore voir. Comme si vous voulez, vous êtes à la porte du paradis, et puis vous savez qu'il y a quelque chose d'extraordinaire, vous ne pouvez pas encore voir. Pas encore votre. Parce que votre corps est un frein. C'est pour ça que les grands saints méprisaient leur corps complètement, parce que le corps, c'était l'empêcheur de tourner en rond dans l'histoire. C'est le corps qui empêchait justement ces contemplations. Ils n'en avaient qu'une idée, c'est d'être libérés de leur corps, pouvoir voler vers le bon Dieu. La béatitude, donc, ultime et parfaite, ne peut être que dans la vision de l'essence divine. C'est ça. C'est la béatitude. Et donc, il y a une autre phrase qui est splendide, dernier paragraphe de la page 33. L'homme ne saurait être parfaitement heureux tant qu'il lui reste quelque chose à désirer et à chercher. Et donc, on désire quelque chose, c'est qu'on n'a pas tout ce qu'il faut. Donc, au ciel, il n'y aura plus à chercher quoi que ce soit. Parce qu'on aura tout. On aura possédé Dieu, et possédant Dieu, on aura tout ce qu'il faut. Et c'est pour ça que notre Seigneur dit, cherchez, vous trouverez, frappez, on vous ouvrira, demandez, on vous donnera. Mais sous-entendu, une fois qu'on a frappé, que la porte s'est ouverte, on a tout. Et c'est aussi une des raisons pour laquelle plus on est en notre Seigneur Jésus-Christ, plus on est en Dieu, moins on a besoin des choses matérielles. Et au contraire, plus on est séparé de Dieu, plus au contraire, on veut remplacer Dieu par des choses matérielles. Donc il y a des phrases très philosophiques, donc il faut un peu les méditer parce qu'elles sont très belles. L'homme ne saurait être parfaitement heureux donc tant qu'il lui reste quelque chose à désirer et à chercher. Il est donc requis pour la parfaite béatitude que l'intellect atteigne à l'essence même de la cause première. Et ainsi il possédera la perfection en s'unissant à Dieu comme à son objet en qui seul consiste la béatitude. Solo Deo, Dieu seul. Dieu du fait qu'il saisit pleinement sa propre essence, par son intellect, a une béatitude plus haute que l'homme ou l'ange qui voit cette essence mais ne la saisit pas pleinement. Donc, Dieu a une gloire extraordinaire parce qu'il se saisit complètement. Alors que nous sommes incapables de saisir la grandeur de Dieu. Et là, il y a une autre définition. Il donne plusieurs définitions de la béatitude. Contemplation du divin, c'est une première définition. Connaissance de Dieu, deuxième définition. Et là, en page 34, deuxième paragraphe, vous avez une autre définition. La béatitude est la joie qui nous vient de la vérité. Dans d'autres endroits, Saint Thomas parle de la paix. La béatitude, c'est la joie et la paix. Mais une paix qui est une paix qui est inamovible. C'est la fin, vous expliquez souvent ces choses-là. Lorsque on a la foi, on participe par notre foi à la stabilité divine. L'âme qui s'incruste dans la foi divine, dans la foi de l'Église, s'incruste dans quelque chose qui est parfaitement stable. Et donc, on ne peut plus jamais perdre cette foi. Les gens qui ont mis leur fin dans les choses matérielles, ils sont toujours inquiets. Pourquoi ? Parce que ils ont mis tout leur argent en bourse, par exemple. Ben, la bourse, ça change, ça varie, puis un beau jour, paf, ils ont tout perdu. Au contraire, celui qui a mis tout son avoir qui a misé tout son avoir sur notre Seigneur Jésus-Christ, il n'a rien à craindre parce que notre Seigneur Jésus-Christ, lui, est inamovible. Il ne peut pas bouger. Il ne peut pas bouger parce qu'il est déjà tout par lui-même. D'accord ? Donc cette béatitude est bien la joie qui nous vient de la vérité. Et donc quand on est en état de grâce, il devrait y avoir en nous cette vérité, cette joie de la vérité, cette paix de la vérité, que malheureusement on n'a pas toujours. Alors évidemment, les obstacles, ici il parle des obstacles, les obstacles c'est le corps qui tire vers le bas. Donc surtout la délectation des sens, cette voie concupiscence. Il dit quand la délectation des sens est contraire à la raison, elle empêche alors l'estimation de la prudence. Plus qu'elle ne met obstacle au jugement d'intellect spéculatif. Donc, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que quand on met notre fin dans les sens vont nous empêcher l'âme de s'envoler, empêcher l'âme de monter vers le bon Dieu. D'accord ? La vision donc correspond à la foi, la délectation aux fruition à la charité. C'est un mot, je ne vais pas utiliser trop en français, mais c'est un mot qui vient du latin. Délectation, la fruition à la charité. C'est-à-dire, on voit la vision, la révision correspond à la foi. Je crois que notre Seigneur Jésus-Christ est Dieu. Un jour, je le verrai, et au moment où je le verrai, je n'aurai plus besoin de la foi. La foi est nécessaire parce qu'on ne voit pas Dieu. Une fois qu'on voit Dieu, plus besoin de foi. D'accord ? La délectation, la fruition à la charité. La foi est donc quelque chose qui va s'estomper, qui va un jour disparaître. Par contre, la délectation de Dieu, ce qu'il appelle la fruition, c'est la charité. Et la charité, elle ne disparaît pas. Une fois qu'on est au ciel, la charité, au contraire, non seulement elle disparaîtra, mais elle prendra toute une dimension extraordinaire. D'accord ? Donc le vrai correspond à la vision, le bien, la délectation. Donc si vous voulez, vous voyez que notre Seigneur, Dieu nous a donné donc deux moyens de l'atteindre, la vérité, le bien, la volonté, l'intelligence. Volonté, on atteint, par la volonté on peut atteindre le bien, et par l'intelligence on atteint le vrai. Ensuite, il va développer un petit peu ça, vous voyez, c'est le troisième paragraphe de la page 34, c'est un peu compliqué, mais c'est splendide. La béatitude donc consiste dans l'obtention de la fin ultime. La béatitude exige le concours de ces trois choses, vision, compréhension, délectation. Donc, vision, c'est première étape, c'est la connaissance, ça c'est l'intelligence. Connaître Dieu aussi parfaitement que c'est possible ici-bas. Deuxième étape, la compréhension, ça c'est la volonté, qui implique la présence de cette même fin. Donc comprendre Dieu, voir Dieu c'est une chose, comprendre Dieu c'en est une autre. Bon. Mais souvent les gens veulent s'arrêter à la connaissance de Dieu. Je connais Dieu, je connais mon catéchisme, oui, mais est-ce qu'on comprend ? Oui, donc il y a trois degrés. Le premier degré c'est la connaissance, le deuxième degré c'est la compréhension, et le troisième degré c'est quoi ? C'est l'amour, la charité. Donc il y a trois degrés. Premièrement la vision, l'intelligence. Deuxième degré, la compréhension, la volonté. Troisième degré, la délectation, la fruition. Et le repos de l'être aimant dans la possession de l'être aimé. Oui, c'est des phrases magnifiques, mais il faut vraiment les méditer tellement elles sont riches. Repos de l'être aimant dans la possession de l'être aimé. On ne serait jamais expliqué l'amour du bon Dieu comme ça. Et ça, c'est la charité. Donc la foi, vision. L'espérance, en quelque sorte, la compréhension. Et la charité, c'est la délectation. Alors, il faut demander justement au bon Dieu, c'est d'avoir, ici-bas, on peut avoir que la vision. On ne peut pas encore avoir la fruition, c'est impossible. Mais les saints qui avaient une vision, si vous voulez, qui avaient une foi tellement forte, une charité tellement forte dès ici-bas, ils avaient une vision qui permettait déjà de passer littéralement au ciel et de voir des choses que seuls les gens du ciel pouvaient voir. Parce que nous, on n'est pas capable de voir ces choses-là, eux, ils le voyaient. Donc, la foi, c'est une vision intellectuelle. Je sais par ma foi que notre Seigneur Jésus-Christ est dans le tabernacle de l'autel. Ensuite, la compréhension, comprendre l'amour du bon Dieu, le degré d'amour du bon Dieu qui accepte de se cacher pour moi sous l'apparence du pain. Troisièmement, comprendre délectation, ça c'est l'action de grâce, c'est après la communion, c'est pour ça que l'action de grâce est tellement, tellement importante après la Sainte Communion. Donc, ensuite il développe un petit peu, certaines âmes bienheureuses sont élevées aux ordres supérieurs du monde angélique et voient Dieu plus clairement que les anges inférieurs. C'est-à-dire que Dieu va donner à des gens qui ont des créatures qui ont une nature inférieure à celle des anges, un niveau d'amour qui peut dépasser celle des anges inférieurs. C'est incroyable quand on y pense. Et Dieu veut donner à ces êtres, à ces créatures ici-bas, une compréhension de lui-même que même les anges inférieurs n'ont pas. C'est pour ça que la charité va faire, on appelle ça la vertu angélique. Charité, c'est quoi ? C'est l'amour du bon Dieu sans aucun frein. En effet, l'homme en cette vie a besoin de ce qui est nécessaire au corps, tant pour l'activité de la vertu contemplative que pour celle de la vertu active, laquelle d'ailleurs requiert encore plusieurs autres conditions pour accomplir ses œuvres. Donc on est bien obligé de partir de la nature, parce que c'est avec notre Dieu qu'on aime le bon Dieu. Donc la grâce est détruite par la nature. Mais pour la béatitude parfaite, au contraire, ce qui consiste en la vision de Dieu, de tels biens ne sont nullement requis. Donc ici-bas, on est bien obligé d'aimer notre bon Dieu avec le corps. Et le fait que nous aimions notre Seigneur Jésus-Christ avec notre corps, c'est un frein. Au contraire, une fois qu'on est au ciel, on n'a plus ce frein. De tels biens comme les biens corporels, matériels, ne sont nullement requis. L'homme a besoin pour agir vertueusement du concours des amis, tant dans les œuvres de la vie active que dans celles de la vie, de la vie contemplative. C'est-à-dire que il n'est pas possible ou difficilement possible pour un homme, si vous voulez, de rester en union avec notre Seigneur Jésus-Christ sans avoir autour de lui une structure qui l'aide à avoir gardé cette union. C'est la raison pour laquelle l'Église a toujours regardé avec une certaine méfiance, on peut dire ça, la vie hérémitique. Non pas qu'elle la méprise, la vie hérémitique, certains des plus grands saints de l'histoire de l'Église sont des grands, grands ermites, mais la vie hérémitique est quand même très dangereuse, parce qu'on est complètement seul. Et donc, il est difficile d'arriver à équilibrer une vie où on est complètement seul. C'est pour ça que même les ermites dans le désert d'Égypte, par exemple, les maîtres ermites étaient obligés d'avoir un minimum de travail manuel. Ils ne passaient pas la rue en adoration comme ça. Et puis, souvent, on déforme complètement la vie de ces ermites. On a l'impression qu'ils vivent dans une grotte comme ça, en contemplation du bon Dieu. Mais on ne voit pas les tentations qu'ils avaient. Ils avaient des tentations terribles. Les tentations de Saint-Antoine du désert sont très connues. Donc, il y a des démons qui lui apparaissaient sous toutes les formes possibles, imaginables, qui venaient l'houspiller pendant la nuit. Parce que, justement, les démons se rendaient compte que ces gars-là, c'étaient les paratonnerres de l'Église. Les paratonnerres de l'Église. Alors, il y en a qui ont fait des choses extraordinaires, mais l'Église a toujours, à Canaan a canonisé certains, l'Église a canonisé par exemple Saint-Simon Stylite. Bon, très bien, c'est magnifique Saint-Simon Stylite, mais il a passé, je ne sais plus combien, 30 ou 40 ans, on se met une colonne de 7 mètres de haut dans un espace qui était grand comme la table. Bon, très bien, si on me demandait de construire une colonne de 7 mètres de haut dans le jardin, dans la cour là, pour pouvoir avoir la paix là-haut, puis avoir la belle affiche de l'eau, bon, ben, je dirais non. Pourquoi? Parce que pour vivre comme ça, il faut des caractères extrêmement trempés et surtout un équilibre extraordinaire. Quoi. Bon, quand les disciples commençaient à faire des trucs pareils, ben, l'Église se dit ben, ils vont s'arrêter où ces gars-là? Ben, c'est vrai, quoi. Des gars, ils ne mangeaient pratiquement plus, ils supportaient toutes les avanies du temps au sommet de leur tour comme ça. Et puis l'Église a tout de suite compris, attention, vérifie bien quelle est la charité. C'est pas la charité, c'est rien. J'ai déjà raconté une histoire de quand l'Église a commencé à connaître les miracles extraordinaires de Saint-Simon Stylite, l'Église s'est dit, c'est qui ce gars-là? Et après, il a dit, ça fait toute une colonne pareille, qu'est-ce qu'il fiche en haut? L'Église n'a jamais fait ça. L'Église n'aime pas les nouveautés, horreur de ça. Donc les premiers évêques, qui ont entendu parler de la vie de Saint-Simon Stylite, était plutôt opposé en disant, mais c'est s'il n'y a pas d'orgueil là-bas d'ailleurs, est-ce qu'il n'y a pas un manque d'esprit d'obéissance? Et donc ils ont voulu d'abord vérifier l'obéissance. Et il y a eu des... Donc avec Saint-Simon Stylite, l'évêque a vérifié sa doctrine, l'a obligé à descendre, quand il a vu qu'il acceptait de descendre immédiatement, il a arrêté, il a dit, attends, tu peux remonter, pas de problème. Et donc il faut demander au bon Dieu cette grâce est une grâce absolument insigne. Ne demandez pas la grâce pour faire des pénitences extraordinaires. Monseigneur a fait une formule, il disait, ne cherchez pas à imiter les saints, vous allez imiter leurs défauts. Ça, c'est vrai. Mais ce n'est pas par des pénitences physiques qu'on entre au ciel. Les pénitences physiques sont un moyen direct. Ce n'est pas parce que quelqu'un fait des pénitences extraordinaires que ça veut dire que cette personne va se sauver. Ça, c'est un moyen. Et vous avez en fait des gens qui ont fait des pénitences extraordinaires physiquement et qui se sont damnés tout simplement parce qu'il y avait de l'orgueil. Imaginez qu'on fasse un miracle toutes les 5 minutes. Bon, c'est quand même difficile quand on fait un miracle toutes les 5 minutes de ne pas se dire, bah, quand même, ben, ça, je suis bien les choses. Hein. Je suis assez doué tout de même. Et c'est pour ça que moi, je ne fais pas de miracle. C'est trop dangereux. C'est trop dangereux. C'est vrai que... faire des miracles et garder l'humilité, ça n'a pas été évident. Hein. Je n'ai pas beaucoup d'expérience dans ce domaine, plutôt limité. Mais
c'est bien compliqué, c'est hein? Une idée d'office que tu as son bon Dieu.
Oui, mais justement, c'est ça qui est difficile, parce que quand on fait des miracles comme ça, garder la tête froide, ce n'est pas évident. Quand on compte, le problème, c'est que beaucoup de gens voient l'homme, et puis le bon Dieu qui est derrière l'homme. Et donc... je vais te donner l'exemple de saint Thomas d'Égypte, que mon Dieu a voulu châtier parce qu'il était tombé dans l'orgueil. Eh bien, mon Dieu a permis des chutes énormes. Eh bien, c'est pas parce que mon Dieu permet des chutes que ça veut dire qu'il nous aime plus. Mais le bon Dieu aime aussi les âmes qui chutent, à condition qu'elles se relèvent, c'est tout ce qu'il demande. Rappelez-vous la formule, le bon Dieu aime plus un soldat qui tombe souvent, qui se relève à chaque fois, qu'un soldat qui tombe jamais. Non. Donc l'homme a donc besoin pour agir vertueusement du concours des amis, donc des gens autour de lui, tant que les œuvres de la vie active que dans celles de la vie contemplative. Même les ordres les plus sévères demandaient un minimum de vie de communauté. Par exemple, l'ordre le plus sévère, on dit que c'est l'ordre des chartreux. Donc, c'est les chartreux. Il y avait aussi des ordres extrêmement sévères, avec le père Muard, là, dans la ville de la Pierre-Quivire, là, dans plein Morvan. Il fallait voir le truc, il fallait la pénitence qu'il faisait, là-bas, c'était terrible. L'endroit le plus froid de ça en France, il n'y avait pas de fenêtre, il n'y avait pas de chauffage, rien du tout. Hein. Bon, mais en soi, l'ordre le plus sévère, c'est l'ordre des chartreux. Mais, encore une fois, les pénitences ne sont pas une fin en soi.
Non, c'est la vertu, la fin.
Hein, c'est la partie de la vertu. Alors après, je vous l'ai déjà raconté, mais je répète, parce que c'est pas cet exemple qu'on comprend tout ce sujet-là. On avait au séminaire un séminariste qui était très gentil, il avait des tas de vertus, il était un très bon séminariste, mais au séminaire, on avait une récréation de 14 à 80 quarts, l'après-midi, de 16h à 16h15. On descendait tous au réfectoire, et on avait le droit de parler au réfectoire. Et on avait, après, on avait un bol de café, on avait des pommes, on avait des abricots, selon l'époque. Et puis tout le monde descendait, on prenait un bout de pain, un bol de café, 80 quarts, la cloche sonnait, hop, on gardait silence, et puis on tournait un travail. Et bien, je me rappelle ce séminariste qui ne venait jamais à la récréation de 16h à 16h15. Et supérieur, mais pas ça. Donc, pas du tout. Et son supérieur, son directeur spirituel, n'aimait pas ça, justement. Et il a réglé le problème rapidement au début de carême. À début de carême, la pénitence qu'on prenait toutes, c'était on descend plus au petit quart d'heure de pause café, il n'y a plus personne au café. Et bien son confesseur lui a obligé le gars, pour pénitence de carême, de descendre, prendre le café et une pomme et un bout de pain tous les jours de carême. Il était tout seul dans le sous. Donc il descendait, il était dans le réfectoire tout seul avec sa pomme, son café, son bout de pain. Et bon, nous, on ne ratait pas la sortie, hein. Mais bon, c'est pour bien montrer que le but de la vie, c'est pas la pénitence. Le but de la vie, c'est l'amour. La pénitence aide à arriver. Bon, c'est sûr qu'il faut faire pénitence, mais il ne faut pas oublier que la pénitence en tant que telle n'est pas parce que quelqu'un fait pénitence qu'il peut y avoir, qu'il peut être un grand saint. La pénitence ne suffit pas. Il y a une apparition du démon, un père du désert. Donc le père du désert qui était c'est père consommé de sainteté qui vit dans les grottes. Et le démon un jour furieux vient le voir en disant: toi tu manges peu, moi je mange jamais. Toi tu dors très peu, moi je dors jamais. Toi tu souffres beaucoup, moi je souffre encore plus que toi. Il y a une seule chose que tu fais que je ne peux pas faire. Le moine, c'est quoi? M'humilier. Et là, le démon est reparti. Et c'est ça. Hein. C'est ça. Il faut faire attention. Alors, deuxième article, qu'on avance un peu quand même. Page 34. Première, secondée. Donc, première partie de la deuxième somme. Je vous rappelle comment on lit les 1. Un grand 1 A, grand 2 AE, ceci, prima, secondé. Première partie, deuxième partie. Un homme peut-il avoir plus de béatitude qu'un autre? Bon, et là, c'est Saint Thomas va répondre en donnant cette phrase très connue de l'Évangile: dans la maison de mon Père, il y a beaucoup de demeures. Donc, ces demeures correspondent aux différents degrés de mérite de ceux qui sont dans la vie éternelle. Il y a différents degrés dans la béatitude, elle n'est pas égale pour tous. Ça aussi, ça montre bien que l'égalité n'existe pas dans Dieu. Même au ciel, il n'y a pas d'égalité. Il n'y a pas d'égalité ici-bas. Et donc, il n'y a pas d'égalité non plus au ciel. C'est pour ça que la révolution insiste tant sur cette notion d'égalité. Des trois mots maçonniques qui symbolisent toute la révolution, liberté, égalité, fraternité, je pense que le plus dangereux, c'est justement la notion d'égalité. La notion d'égalité va supprimer la notion de dépendance. Puisqu'on est tous égaux, on est tous indépendants. Okay? En fait, on n'est pas égaux. Et donc, puisqu'on n'est pas égaux, on est tous dépendants. Le Seigneur Lefebvre me disait, mon père, dans une conférence, il nous avait dit, c'est ce qui sera la plus grande surprise pour nous au moment de mort, c'est de remarquer, de comprendre à quel point nous étions dépendants. Et nous sommes dépendants de Dieu. Donc, la réponse est donc négative. Elle positive, oui, un homme peut avoir plus de béatitude qu'un autre, parce que le degré de béatitude est un don de Dieu. Et les dons de Dieu sont sans repentance. Donc, Dieu donne à différentes âmes des choses différentes. Alors, espérons expliquer un petit peu cet article. J'ai appris ici les passages clés de l'article. L'idée de béatitude inclut donc deux aspects. La fin ultime, qui est le souverain bien, puis l'obtention, la jouissance de ce bien. D'accord? Donc d'abord, savoir par notre intelligence que Dieu est le souverain bien. Deuxièmement, par notre volonté, l'atteindre. En ce qui concerne le bien même, qui est l'objet de la béatitude, il ne peut y avoir une béatitude plus grande qu'une autre, puisqu'il n'y a qu'un souverain bien qui est Dieu. Donc Dieu en tant que tel est le même pour tout le monde. D'accord? Donc à ce titre-là, la béatitude est identique pour tout le monde. On adore tous le même Dieu. Comme on adore un Dieu identique, donc il y a une certaine égalité dans la béatitude, c'est ce que dit saint Thomas, certaine égalité dans la béatitude, pourquoi? Parce que on adore tous le même Dieu. C'est un Dieu qui se donne à l'âme, le même Dieu qui se donne à toutes les âmes. Cependant, justement, quant à l'obtention ou la jouissance de ce bien, l'un peut avoir plus de béatitude que l'autre, car plus on jouit de ce bien, plus on est bienheureux. C'est-à-dire que la chose qu'on contemple est identique pour tout le monde, mais la lumière par laquelle on contemple ce bien infini est différente pour chaque personne. C'est-à-dire que, si vous voulez, il y a des gens qui vont avoir une ouverture de cœur relativement étroite, et donc le bon Dieu ne peut pas rentrer, faire exactement ce qu'il veut dans ce cœur, au contraire, quelqu'un qui a un cœur beaucoup plus ouvert, le bon Dieu peut faire à peu près ce qu'il veut là-dedans. Vous voyez? Donc il y a deux choses, il faut distinguer donc la fin ultime, Dieu souverain bien, qui est identique pour tout le monde, et enfin la jouissance de ce bien, par intermédiaire de la volonté, éclairée par la foi au niveau de la gloire, donc ce sera plus dans la foi, ce sera au niveau supérieur dans la gloire. Donc la béatitude est la même pour tous par rapport au souverain bien lui-même, mais par rapport à la jouissance de ce bien, chaque âme est différente. Donc chacun va avoir un degré de béatitude différent. Ce qui est extraordinaire au ciel, c'est que chacun aura un degré de béatitude différent sans être jaloux du voisin. Ça, ici-bas, c'est très impossible à comprendre. C'est-à-dire que si vous avez un degré de béatitude, vous êtes au ciel, vous avez un degré de béatitude plus grand que celui de la béatitude au ciel, eh bien, vous ne serez pas tenté de dire à la béatitude, non, je suis au-dessus de toi. Bon, parce que, justement, vous serez dans une union telle avec le bon Dieu, il n'y a plus besoin de critiquer qui que ce soit. Donc chacun sera à sa place, et chacun sera parfaitement heureux à sa place, sans chercher à être jaloux de la place du voisin. C'est quelque chose qui est pratiquement incompréhensible. D'accord? Donc c'est ça qu'il faut voir. Et donc relisez, vous pouvez prendre certains de ces textes, hein. Les textes de la béatitude, c'est un traité assez compliqué, mais c'est un traité qu'on peut utiliser en méditation. Vous pouvez reprendre ces feuilles-là, si vous voulez, relire ces feuilles, prendre certaines parties et méditer un peu. Bon, c'est pas très facile, mais ça peut vous aider. Hein. Alors, donc l'un peut avoir plus de béatitude que l'autre, car plus on jouit de ce bien, plus on est bienheureux. Ensuite, il va expliquer. Il arrive qu'un homme jouisse de Dieu plus parfaitement qu'un autre parce qu'il est mieux disposé ou mieux ordonné à cette jouissance. Donc, posons-nous cette question, est-ce que mon âme est atrophiée, repliée sur elle-même, ou au contraire, mon âme s'écarte de telle façon, s'ouvre de telle façon qu'elle puisse recevoir tout ce qu'elle doit recevoir du bon Dieu? Voilà ce que dit saint Thomas ici. Il arrive donc qu'un homme jouisse de Dieu plus fortement qu'un autre parce qu'il est mieux disposé ou mieux ordonné à cette jouissance. Posons-nous cette question. Est-ce que mon âme est déterminée à jouir de Dieu aussi parfaitement que possible? Ou est-ce qu'au contraire, mon âme veut jouir de Dieu à condition de bien garder aussi la jouissance des biens si-bas, des biens temporels d'ici-bas? Et ça, c'est pas possible, vous voyez? Beaucoup de gens veulent bien du bon Dieu à condition d'avoir d'abord soigneusement joui des biens matériels d'ici-bas. Si on veut vraiment aller vers le bon Dieu, il faut libérer de la place. Et donc, on est obligé de se détacher de certains biens ici-bas. Voilà. On va finir au moins cet article-là. Donc l'un ainsi peut avoir plus de béatitude que l'autre. L'égalité du salaire d'un denier, dans la parabole du denier, c'est la parabole du dimanche dernier, l'égalité du salaire d'un denier signifie que la béatitude est unique du côté de l'objet. C'est du côté de la personne qui est donnée, Dieu lui-même, cette divinité est identique pour tout le monde. Mais la diversité des demeures signifie la diversité de la béatitude selon un divers degré de jouissance. Le degré de jouissance de cette béatitude va dépendre du degré de charité qu'on a à la mort. Donc si au jour de notre mort, on a un degré de charité très, très important, on aura un degré de gloire très important au ciel. Le degré de béatitude qui correspondra à cette gloire. Au contraire, si on a un degré de charité relativement limité aussi ici-bas, au moment de notre mort, eh bien, il est évident que notre degré de gloire au ciel va en souffrir. Mais une fois qu'on est au ciel, on sera parfaitement heureux dans le degré de gloire que mon Dieu nous aura donné. On n'aura plus cette jalousie du prochain. C'est ça que le démon, au contraire, lui n'a pas cette paix. Donc le démon est constamment jaloux de la gloire des anges, de la gloire des hommes. Et la plus grande souffrance des démons, c'est de voir une âme monter au ciel. Parce que chaque fois qu'il voit une âme monter au ciel, il se rappelle que ce ciel, il en s'est parti, et qu'il était supposé y être lui aussi. C'est ça que le démon va tout faire pour empêcher l'âme de monter vers le ciel. Et la plus grande contraire, lorsque le démon voit une âme qui tombe en enfer, eh bien, ça doit augmenter de façon extraordinaire son orgueil, tout simplement. Et quand il voit une âme monter au ciel, c'est l'inverse qui se passe. Et donc, vous pouvez déjà un peu méditer là-dessus à partir de l'évangile du denier, donc les ouvriers qui arrivent au cours de la journée, qui sont embauchés au cours de la journée, certains à la première heure tout à fait au début, certains à la dernière heure, ils sont tous payés de la même façon, le denier. Mais ce denier, dit saint Thomas, signifie la béatitude unique du côté de l'objet. Ça veut dire que même celui qui arrive à la dernière heure, qui vient à la dernière heure, aura la même joie, la même possession de Dieu que celui qui est arrivé à la toute première heure. Cependant, il y a une diversité de demeures. Il y aura donc une diversité de béatitude. On dit l'un plus heureux que l'autre en raison d'une participation différente de ce même bien. Et l'addition d'autres biens ne saurait augmenter la béatitude, ce qui fait dire à saint Augustin, une magnifique phrase de saint Augustin, « Celui qui vous connaît en même temps toutes les autres choses, n'est pas rendu plus heureux à cause d'elle, mais il est bien heureux à cause de vous seul. » Il y a plusieurs phrases un peu dans ce style. C'est-à-dire que celui qui connaît tout et qui ne connaît pas Dieu connaît rien, celui qui connaît Dieu et qui ne connaît rien d'autre connaît tout. Il y a plusieurs phrases comme ça, elle est un peu différente, mais elle est très belle aussi. Donc, celui qui vous connaît et connaît en même temps les autres choses n'est pas rendu plus heureux à cause d'elle, mais il est bien heureux à cause de vous seul. Donc, le degré de gloire que nous aurons au ciel, le degré donc est déterminé par ce degré d'abandon à la volonté du bon Dieu ici-bas. Donc si j'arrive à ouvrir mon cœur ici-bas en disant « mon Dieu, que votre volonté soit faite », même si je ne sens rien du tout, même si je suis en désolation tout le temps, à partir du moment où il y a cette volonté délibérée de se mettre, si vous voulez, au diapason de notre Seigneur Jésus-Christ et dire au bon Dieu, mon Dieu, que votre volonté soit faite en toute chose, et à ce moment-là, c'est là qu'on obtient la paix. D'accord ? Voilà, bon, on va arrêter là. Donc, aujourd'hui, on est combien ? Un petit peu ? 16. Le 16, je pense, oui. Donc, ici, le 16. 16, 2, 17. Donc, la prochaine fois, donc on continuera plus en avant d'un côté, plus c'est facile. Au début, c'est assez difficile parce qu'il met en place tous les principes philosophiques. Alors, attention, le jeudi prochain, donc, il y a une retraite. On n'a pas la quantité, mais on a la qualité, comme on dit. Donc, il y a que 3 retraitants, mais ils sont bienvenus quand même. Parce que les grosses retraites commencent qu'en mars. Donc, dimanche, ça, jeudi prochain, donc, il n'y a pas de cours. On reprendra le prochain cours donc dans 15 jours. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort.
Nos saints anges gardiens,
priez sur nous.
Saint Pédis,
priez pour nous.
Saint Joseph,
priez pour nous.
Saint Thomas d'Aquin,
priez pour nous.